de cette cohabitation?
Ça a déjà commencé, hein, en sens qu'il y a quelques jours, le président Trump a reçu deux leaders démocrates à la Maison-Blanche et le ton est déjà lancé, le décor est planté. Ce sont des batailles à venir, à n'en plus finir. Ils devaient discuter d'un projet de loi sur le budget. Le président dit, écoutez, moi je veux le financement de la construction du mur à la frontière sud. Mm-hmm. Nancy Pelosi a répondu que monsieur le président soit raisonnable et le président a menacé déjà en fait de shutdown du gouvernement.
Donc
le temps et le décor est planté. On va assister à des batailles juridiques entre républicains et démocrates jusqu'aux élections. C'est absolument certain sur le mur, sur le Medicare et sur toutes les questions qui vont se poser. On va se renvoyer la balle entre républicains et démocrates, entre la Chambre et le Sénat, si ce n'est pas le président d'un côté et les démocrates de l'autre.
Timothée, est-ce que vous pensez que cette cohabitation pourrait compromettre les chances de réélection de Donald Trump?
Alors, il faut dire que ces élections de mi-mandat, c'était le top départ pour 2020. Donc, côté démocrate, les candidats se bousculent au portillon, ils sont très nombreux. Côté républicain aussi, et étant donné que le président Trump est un président inhabituel, il y a du côté des républicains aussi des gens qui pensent qu'il faut lui opposer des candidats, organiser des primaires au sein du Parti républicain, alors que traditionnellement, le locataire de la Maison-Blanche est le candidat naturel du parti qui est à la Maison-Blanche. Mais cette fois-ci, il y a des voix qui disent qu'il faut présenter des gens contre le président Trump aux primaires. On pense par exemple au gouverneur Kasich de l'Ohio, le sénateur Flake républicain qui prend sa retraite de Flake de l'Arizona. Donc c'est déjà une situation assez malaisée pour le président. Beaucoup de gens côté républicain, il y a de plus en plus de voix qui disent qu'il faut lui opposer des candidats. Donc ça va être du pain sur la planche pour le président Trump.
Idriss Fall, comment vous voyez le scénario de l'élection?
C'est que je pense que les prochaines élections, tout le monde a l'œil dessus, mais il faut pas oublier que quand même actuellement, au moment où nous parlons, il y a une enquête sur une éventuelle ingérence de la Russie dans la campagne de 2016. Qui a porté Donald Trump au pouvoir. Et cette enquête n'est pas finie. On ne sait pas ce que M. Robert Mueller, qui est le procureur spécial, on ne sait pas ce qu'il a dans ses dossiers. On sait qu'il vient de condamner à 3 ans de prison Michael Cohen, qui est l'ancien avocat personnel de Donald Trump. Paul Manafort aussi, on saura, l'ancien directeur de campagne. Mmh. Et tout ceci, peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne sait vraiment pas.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Idriss. On va transitionner sur le continent africain. Cette année, la République démocratique du Congo a subi la pire épidémie d'Ebola de son histoire, avec plus de 420 cas dans l'est du pays. Alors, cette épidémie, la dixième qu'a connue le pays, est la inhabituel car plus de 60% des patients sont des femmes. Blanche Sanou nous fait le récit.
Ce bébé est né atteint du virus Ebola et a passé 3 semaines dans ce cube d'isolement en plastique dans un hôpital de Beni. Sa mère avait le virus et est morte en couche. Le virus Ebola a été diagnostiqué chez plus de 400 personnes depuis le mois d'août. C'est là en fait la deuxième plus grave épidémie de tous les temps, après qu'Ebola ait tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016.
C'est devenu la pire épidémie au Congo. Ce n'est pas un mystère.
Encore plus mystérieux, selon les responsables de la santé, les données démographiques de cette épidémie, plus de 60% des cas sont des femmes.
Toutes les analyses faites démontrent que cette épidémie est très féminisée. Les chiffres sont quand même alarmants. Il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes ici.
Le docteur Djoloko n'a pas voulu se prononcer sur la fin de l'épidémie en RDC. Par contre, les responsables internationaux ont déclaré que cela pourrait durer encore 6 mois.
So now we come on the guess.
À l'heure actuelle, nous ne pouvons que faire des spéculations. Et l'une des hypothèses est que les femmes sont les gardiennes des malades à la maison. Donc, si un membre de la famille tombe malade, qui prend soin de lui? Évidemment, c'est une femme.
Ou encore une infirmière. Un grand nombre des personnes touchées par cette maladie sont des agents de santé.
Ce sont des douleurs énormes, en tout cas des douleurs vives. Des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, des affaiblissements là. Donc on est très malaisé là-bas.
Pour les personnes infectées, le chemin de la guérison est long et solitaire.
Oui, donc l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 270 morts, va encore durer quelques mois, c'est ce qu'a déclaré récemment le ministre congolais de la Santé. Alors Timothée, la situation est-elle réellement sous contrôle?
En fait, la difficulté avec cette épidémie d'Ebola que vit la RDC en ce moment, c'est que cette flambée s'observe dans des zones un peu plus peuplées que d'habitude et aussi des zones de conflit. Donc ça complique les choses. Et maintenant, avec les élections qui, en temps ordinaire, sont toujours source de tensions et de remous, mais avec tous ces facteurs combinés, font que cette épidémie d'Ebola soit vraiment inquiétante et difficile à maîtriser.
Idriss Fall, quelle a été la réponse des autorités et puis doit-on s'inquiéter vraiment d'une propagation de la maladie à l'échelle nationale et même régionale?
Pour le moment, elle est quand même circonscrite parce que la République démocratique du Congo, vous l'avez dit au début, en est peut-être à sa 10e épidémie. Rien que cette année, il y avait eu l'apparition de l'épidémie Ebola à Mbandaka là-bas. Bon, les périodes les plus terribles, c'était quand il y a eu cette épidémie à Kikwit. Et qu'on ne peut pas comparer, par exemple, à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, où il y avait 11 000 morts et qu'on a commencé même à retrouver des malades au Mali et au Sénégal.
En nombre, c'est beaucoup.
Donc, ici, c'est plus. Parce que le Kinshasa a l'habitude d'être confronté à la maladie Ebola. Donc, ce qui fait que je pense qu'au plan même de la propagation, on n'a pas encore signalé de cas ni au Rwanda voisin, ni en Ouganda voisin, et encore moins dans les pays limitrophes comme le Soudan du Sud et ailleurs.
Alors, est-ce qu'on peut envisager un avenir sans Ebola en République démocratique
du Congo? C'est trop tôt pour le dire, parce que la zone de Beni, c'est une zone où tu as les rebelles ougandais ADF, tu as les Mai Mai, tu as les sexes M23. C'est une zone de conflit armé. Et donc, c'est très, très difficile. Et plus les croyances. Parce que je pense que dans le reportage sur Beni, les populations, beaucoup de populations ne croient même pas à l'existence de la maladie Ebola. Donc, et la riposte va aussi dans le sens d'amener les gens à savoir que c'est une maladie qui est réelle. J'ai parlé avec un de nos confrères là-bas à Beni il n'y a pas longtemps, qui me disait la campagne électorale, elle se passe normalement. Mais les gens savent que, par exemple, même quand ils vont dans un meeting, ils n'ont plus à se serrer la main. Parce qu'ils savent que la maladie se transmet par contact. Donc, mais je pense que ça va mettre du temps pour que ce soit vraiment zéro Ebola dans la région de Beni, Boutembo, ça j'en suis sûr.
On va poursuivre cette émission après une courte pause.
Chaque jeudi à 19h, temps universel.
Washington Forum sur VOA et nos chaînes partenaires.
Vous et nous, c'est votre émission hebdomadaire de VOA Afrique. Une connexion Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent.
Des rencontres loin des clichés.
Un choc des cultures, bienvenue.
Dont vous et nous.
Suivez des interviews, des reportages originaux.
Nos rubriques web, nouvelles technologies.
Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'air du temps.
Vous et nous.
C'est moi.
C'est toi.
C'est vous et nous.
Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nos deux invités sont toujours là, Timothée Donangmile, chef du service francophone de la VOA Afrique, et Idriss Fall, le rédacteur en chef de nos émissions radio sur la VOA Afrique. Et nous poursuivons dans le Sahel. Les djihadistes ont gagné du terrain avec des attaques qui se sont notamment multipliées et un vaste réseau découvert au Sénégal et au Mali. Dili Diko nous dresse ce portrait pour nous du bilan de la situation sécuritaire dans l'un des pays de la zone, le Burkina Faso.
La situation sécuritaire au Burkina est caractérisée par une grande fragilité qui, selon les analystes, s'explique par une agrégation de facteurs, dont la déstabilisation de la sous-région. La situation sécuritaire au Burkina est impactée par celle des pays voisins, en particulier le Mali, et de façon plus générale, la proximité avec la bande sahélo-saharienne. L'engagement du Burkina dans la lutte contre le terrorisme causant les représailles des djihadistes, la volatilité de la situation politique depuis la chute du président Blaise Compaoré, le Burkina est aussi une base arrière de pays luttant contre les organisations djihadistes comme la France, dont les forces spéciales de l'opération Barkhane se trouvent à Ouagadougou. Et selon certains experts, les groupes terroristes cherchent à élargir leur terrain d'action, faisant du Burkina une cible de choix lors de leurs attaques. Pour rappel, trois principaux attentats terroristes ont secoué le Burkina au cours de ces dernières années. Le plus récent, le 2 mars 2018, l'ambassade de France, l'Institut français et l'état-major général des armées, situé au centre-ville de la capitale burkinabé, étaient les cibles des djihadistes. Le 13 août 2017, le restaurant Aziz Istanbul était sous attaque. Deux djihadistes ont ouvert le feu sur la clientèle, faisant 19 morts et 21 blessés. Le 15 janvier 2016, au café Cappuccino, trois djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tirent sur la terrasse du café avant de poursuivre leur assaut dans plusieurs autres établissements, dont l'hôtel Splendide. En dehors de Ouagadougou, le nord du Burkina est aussi fortement touché par la menace terroriste. Selon un bilan officiel, du premier trimestre 2015 à mars 2018, près de 80 attaques ont eu lieu, faisant au moins 133 morts. Le choc et la colère laissent place au sentiment d'impuissance chez les Burkinabés. Les populations se demandent pourquoi les autorités ne parviennent pas à prévenir ces attentats. Que fait l'État pour protéger ses citoyens ? En attendant une action plus efficace des forces du G5 Sahel sur le territoire burkinabé, l'armée nationale est seule à traquer les djihadistes sévissant dans le pays des hommes intègres. La dernière offensive des forces de sécurité le 22 mai a permis de démanteler une cellule de terroristes à Rayango, à l'est de Ouagadougou. Suite aux attentats du 2 mars et aux nombreux enlèvements, le Burkina a considérablement renforcé sa stratégie de défense et les autorités n'ont de cesse de prôner le vivre ensemble.
Timothée, peut-on dire que cette année, le Burkina a été l'un des pays les plus touchés par le terrorisme ?
Le Burkina a été particulièrement touché, mais comme vous le savez, le problème c'est que le Burkina est situé dans cette bande sahélienne qui est à l'orée du désert du Sahara où les groupes djihadistes évoluent avec beaucoup d'aisance, ce qui explique la présence par exemple dans le nord du Mali. Et donc maintenant ces groupes se sont arrangé à recruter beaucoup plus dans des pays comme le Burkina. C'est ce qui explique ces fréquentes attaques au Burkina Faso.
Idriss Fall, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux des autres pays du continent?
Oui, mais c'est toute la sous-région. C'est toute la sous-région. C'est-à-dire l'épicentre, c'était le Mali. Ils sont venus, ils ont pris des villes comme Gao, Tombouctou, toutes les grandes villes du nord. C'était en 2011, 2012. Et après même, ils ont eu l'audace de vouloir progresser, aller vers Sévaré et même peut-être aller vers Bamako. La France est intervenue en 2013. Ces groupes ont été dispersés, pas tués, dispersés. ils se sont évaporés dans la nature, ils portent les habits locaux, ils fondent sous les arbres, et on les voit ressurgir comme des fourmis. Ils mènent des attaques à Bamako, ils mènent des attaques dans l'est du Mali, ils vont faire du shopping dans l'ouest du Niger, et n'oublions pas que le centre du Mali, il y a un dirigeant local qui s'appelle Amadou Koufa, qui est très actif là-bas au nom de défendre la région du Massina.
Qui est présumé mort d'ailleurs.
Mais moi je n'y crois pas tellement. Le Burkina a aussi son propre djihadiste qui s'appelle Malam Ibrahim Diko. Lui aussi on l'a annoncé pour mort. Et que...
Alors, mais qu'est-ce qu'ils font quelle est, en matière de lutte antiterrorisme, Timothée, où en est cette force antiterroriste du G5 Sahel?
Alors, cette force est mise en place, mais il y a toujours des problèmes de ressources. Et lors de la récente réunion à Nouakchott, en Mauritanie, la France, l'Union européenne ont promis, je crois, 1,2 milliard d'euros, je pense,
presque,
de financement.
Presque 2 milliards.
Et voilà, presque 2 milliards de financement. Donc, on espère que cela permettra vraiment d'opérationnaliser cette force, parce que tous les espoirs sont fondés sur cette force-là. Et jusqu'ici, faute de moyens, elle n'a pas pu vraiment accomplir sa mission comme il se doit.
J'ai précisément que au Mali, il y a l'armée malienne, il y a l'opération Barkhane, il y a la force du G5 Sahel, il y a les milices pro-gouvernementales.
Il y a toutes
les forces du monde là-bas au Mali. Je dis parallèlement, si on se rend compte ce qui se passe en Afghanistan depuis 2001, les États-Unis ne sont pas arrivés à vaincre militairement les djihadistes qui sont en Afghanistan. Donc il faudrait que les gens voient qu'est-ce qu'on veut faire avec ces gens-là.
Merci beaucoup Idriss Fall, Timothée Donogmaï d'être venu sur ces événements et surtout d'avoir chapeauté l'actualité toute cette année. Merci beaucoup. Et on poursuit cette émission sportivement. L'année 2018 s'est achevée sur le continent avec ce long feuilleton sur le pays hôte de la CAN 2019 qui s'était finalement retrouvé sans abri après le retrait de la compétition au Cameroun pour retard dans les travaux préparatifs. Complot, injustice, désordre, les mots employés furent très durs. S'en est suivi une cacophonie dans les déclarations de candidature. Je vous propose de revivre tout cela avec Yacouba Ouédraogo.
Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun.
C'est la conclusion tirée par le comité exécutif après un exposé d'une délégation de la CAF sur les deux dernières visites d'inspection effectuées au Cameroun. Mais déjà, fin septembre, lors d'une réunion à Sharm el-Cheikh en Égypte, la Confédération africaine avait pointé du doigt un retard dans la réalisation des infrastructures nécessaires à la tenue de la CAN 2019 au Cameroun. Toutefois, le président Ahmad Ahmad avait déclaré début octobre, lors d'une visite au pays de Paul Biya, que la Confédération africaine de football n'avait pas de plan B. L'Union nord-africaine de football a écrit à la CAF pour exiger le respect de tous les critères du cahier des charges pour l'organisation de la compétition. Beaucoup ont vu dans ce courrier un moyen de faire pression sur la CAF pour que la compétition soit éventuellement réattribuée au Maroc. Mais le président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Legdia, a tenu à calmer le jeu, affirmant que son pays est et sera toujours aux côtés du Cameroun pour organiser une Coupe d'Afrique d'envergure. Un soutien qui n'aurait donc pas pu ici. La CAN a été retirée au pays de Samuel Eto'o et de Roger Milla. Yaoundé a dénoncé ce qu'elle qualifie de décision injuste avant de se raviser et accepter l'organisation de l'édition 2021, initialement attribuée à la Côte d'Ivoire, qui a crié au scandale. La Fédération ivoirienne de football a saisi le tribunal arbitral du sport. L'appel à candidature a été lancé pour 2019. S'en est suivi une cacophonie dans les déclarations de candidature. La CAF a annoncé que le Congo a manifesté son intérêt. Brazzaville a démenti. Régulièrement cité comme possible remplaçant du Cameroun, le Maroc a finalement annoncé qu'il ne sera pas candidat. Cette décision a laissé la voie libre à l'Égypte qui a fait acte officiel des candidatures, elle qui avait dit auparavant ne pas candidater pour entrer en concurrence avec un autre pays arabe sans citer de nom. L'Afrique du Sud s'est aussi portée candidate pour accueillir la compétition. Beaucoup de bruit donc autour de cette première CAN à 24 équipes, mais une seule certitude, elle aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019, ou on le saura le 9 janvier.
Yacouba, donc on a suivi l'événement CAN, mais toujours dans le foot, il n'y a pas eu que cette polémique hein, autour de la CAN dans l'actualité sportive de 2018.
D'abord, bonsoir. Bien évidemment, on retiendra aussi hein, les qualifications historiques hein, de deux pays, la Mauritanie et Madagascar, qui vont jouer la CAN pour la première fois de leur histoire à partir de 2019. On va rappeler aussi que cette année 2018 a commencé hein, avec sportivement, avec ce CHAN joué et remporté par le Maroc à domicile. Toujours dans le football, on se souviendra bien sûr de la grande messe du ballon rond qui s'est jouée en Russie. Et vous vous souviendrez bien sûr qu'il y a eu cinq pays africains bien sûr à ce tournoi du ballon rond là. On avait la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria bien sûr. Mais on retiendra surtout la participation sénégalaise. Le Nigeria et le Sénégal étaient presque à la porte des huitièmes de finale. Malheureusement, ils n'y sont pas parvenus. Mais on retiendra quand même qu'ils ont fait une participation assez honorifique. Le Sénégal notamment qui devient désormais le pays africain qui a cumulé le plus de victoires bien sûr en Coupe du Monde avec 3 victoires et 2 matchs nuls et 1 seule défaite en 2 participations.
Alors, les femmes Yacouba ont offert aussi un spectacle durant l'année 2018, n'est-ce pas?
Oui, les femmes ont offert du spectacle bien sûr durant cette année 2018. On va se rappeler tout simplement que toute cette polémique est autour de la CAN 2018 au Ghana, notamment lorsqu'Ahmad a déclaré que le Cameroun ne sera plus candidat, se faisait en marge de la CAN féminine qui se jouait dans ce pays-là. Et finalement, ce sont les Nigérianes qui sont venues à bout de l'Afrique du Sud en finale. Les Nigérianes, bien sûr, qui ont battu les Sud-Africaines au tir au but. Et l'autre grande performance, bien sûr, féminine africaine sur le continent, on retiendra bien sûr la consécration de l'Angola à la Coupe d'Afrique des Nations de handball jouée bien sûr à Brazzaville.
Alors, que retenir des compétitions de clubs sur le continent?
Deux compétitions majeures de clubs sur le continent. Il y a la Ligue des Champions et ensuite il y a la Coupe CAF. On le sait, pour la Ligue des Champions, c'est l'Espérance Tunis qui est venue à bout du géant égyptien Al Ahly au terme d'une finale assez renversante. 3-1 à l'aller en Égypte, 3-0 au retour bien sûr pour Al Ahly. Et pardon pour l'Espérance Tunis en Tunisie. Et donc, ce fut la fameuse remontada africaine. En Coupe CAF, on retiendra aussi que le Raja Casablanca, bien sûr, le club marocain, est aussi venu à bout du club congolais de l'AS Vita Club. Et donc, l'AS Vita Club battu 3-0 au Maroc et qui est revenu, bien sûr, à domicile, notamment à Kinshasa, et qui n'a pas pu renverser la tendance. Victoire, bien sûr, des Congolais, 3-1, mais insuffisant quand même pour remporter le sacre final.
Alors, j'allais dire un petit mot, en un mot, un souhait pour 2019. En un mot.
Vive le sport, simplement.
Super. Bah, merci en tout cas de nous avoir accompagnés toute cette année. Et bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Merci pour votre fidélité. Un remerciement à l'équipe de production, Saloua Jafari, Lionel Gaïma. Vous pouvez retrouver toutes nos éditions sur notre site internet et notre page Facebook. C'était Raissa Girondin avec vous. Excellente suite de programme.
Chaque jeudi à 19h, temps universel.
Washington Forum, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Afrique-Amérique inédite où les Africains et les Américains se racontent.
Ces rencontres loin des clichés.
Un choc des cultures, bienvenue.
Dont vous et nous.
Suivez des interviews, des reportages originaux.
Nos rubriques web, nouvelles technologies.
Mode, amour, emploi vous tiennent informés à l'air du temps.
Vous et nous.
C'est moi.
C'est toi.
C'est vous et nous.